nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les suspects, on les laisse mijoter. Les enquêtes du commissaire Maigret mijotent, elles aussi. Et les petits plats préférés du commissaire, qu'ils soient préparés par Madame Maigret ou par le cuisinier de la brasserie Dauphine, ils mijotent, bien entendu. Avant de les déguster, on soulève le couvercle et l'on hume la nourriture. Maigret a du flair, Simenon a du nez. Maigret aime manger, Maigret aime boire. Il est un peu obligé, car il lui arrive si souvent d'entrer dans des bistrots lors d'une enquête, d'une filature. Et parfois, dans l'arrière-boutique de ces bistrots, en cuisine. Il se régale à l'avance de l'épais fumet de la mangeaille. De bouche à oreille, l'appétit de Georges Simenon, première diffusion sur France Culture le 7 septembre 2003.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, l'appétit de Georges Simenon.
Il mangea son rôti de veau sans appétit et sa femme se demanda pourquoi il lui disait tout à coup « Demain, tu nous feras des andouillettes. » Maigret est le client du samedi. On apportait l'andouillette garnie de pommes frites. Maigret remplissait les verres. Maigret est le fantôme. « Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner ?»« De l'andouillette. Mais si vous préférez un steak andouillette, » trancha Maigret. Georges Simenon, Maigret est l'indicateur.
Quand on joue à mettre en perspective des moments de la vie quotidienne de Maigret dans les romans de Georges Simenon, on est frappé par la jubilation apéritive de certains passages. Par exemple, dans Maigret et le clochard, on a ceci. Rêveur, il mangeait son foie de veau en papillote. Mais surtout, on est frappé par le fait que la nourriture est fortement liée aux lieux et aux odeurs mélangées de ces lieux. Quels lieux ? Bien sûr, les bistrots. Les bougnats de l'impasse Guéméné, le zinc de la rue des Acacias, et puis la coupole où Radek, dans la tête d'un homme, grignote des sandwichs au caviar. De Liège à Paris, de Porquerolles à La Rochelle, on perçoit des effluves de genièvre. On navigue à vue dans les parfums d'aïoli et de la mouclade des boucholeurs. Et puis il y a la guinguette, ce lieu commun de la mémoire, avec la présence des fleuves, des canaux et des écluses, on pense péniche, comme l'écrit Michel Carli, et on déjeune à l'auberge du vieux garçon dans les fumées des saucissons. Une traversée plus olfactive que gustative. Au sommaire de Bouche à oreille, juste un mot, boulet. Reportage, entretien avec Michel Carli, auteur de Maigret traversée de Paris, et la voix de Georges Simenon. Comment le goûtez-vous, Maigret, le gigot ? Micro-ondes. Juste un mot, boulet.
Alors les boulets, c'est une vraie friandise gastronomique pour les Liégeois et pour Georges Simenon d'ailleurs. Alors les boulets, en fait, c'est l'appellation liégeoise de ce qu'on appelle en Wallonie les boulettes. Alors, la forme, bien sûr, de la chose est donnée par le mot. C'est-à-dire que c'est de la viande hachée, qui est, disons, pétrie avec du pain, des œufs, des oignons. Et puis alors, ça forme un boulet, comme un boulet de canon, un peu moins gros quand même. Et puis, alors, on cuit ça et on sert ça avec ce qu'on appelle une sauce lapin.
J'avais faim de tout. J'étais enchantée de tout. Il y avait une légèreté dans l'air, une légèreté aussi dans le parler des gens, dans leur regard. que de plats aussi que je n'avais jamais mangés et que je goûtais avidement. Les rillettes, par exemple, les andouillettes, les tripes à la mode de Caen, et l'odeur de certains vins, de certains alcools. J'adorais manger dans les restaurants où les habitués avaient leurs serviettes dans un casier et où le menu était à la craie sur une ardoise. J'aurais voulu tout apprendre à la fois, aller partout, fouiller partout, savoir ce qui se cachait derrière chaque mur, derrière chaque porte, derrière le front de chaque passant. Un homme comme un autre.
Michel Carli est spécialiste de Simenon et commissaire de l'exposition Maigret traversée de Paris à la Bibliothèque des littératures policières de la ville de Paris. Michel Carli.
Chez les Simenon, il y a le père et la mère. Je sais que c'est plutôt simple, mais c'est important parce que la mère, du côté de la mère, c'est une cuisine plutôt tendance flamande. Et chez le père, le grand désiré, on serait plutôt côté wallon. Alors, donc le sud de la Belgique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le père, le grand désiré, lui a toujours faim. Et quand il retourne dans sa famille, en Outre-Meuse, la première chose qu'il fait en rentrant, c'est soulever les couvercles de casserole pour humer la nourriture. Il y a un côté wallon, c'est-à-dire cuisine mijotée. Chez le père, tandis que la mère, c'est plutôt une cuisine, je vais pas dire c'est une cuisine pauvre, mais c'est une cuisine du Nord, donc ça sera une cuisine plutôt de hareng, une cuisine flamande, de plats plutôt salins, je vais dire, un regard vers la mère. Pour vous donner une idée, il y a dans l'ascendance du côté maternel chez Simenon, un côté maison du canal. Un côté chez les Flamands, pour citer des titres de romans. N'oublions pas que la mère d'Henriette, donc la grand-mère maternelle de Georges Simenon, qui était pauvre, très pauvre, parce que la famille avait connu des revers de fortune, eh bien faisait bouillir des marmites pleines d'eau dès le matin, sur la cuisinière pour faire croire qu'on cuisinait et qu'on était encore riche. Donc la cuisine passait déjà dans une aïeule de Georges Simenon par le paraître, par un besoin de ne pas montrer qu'on était pauvre.
Je viens de faire un véritable festin. Il n'y avait ni caviar, ni langoustes, ni faisans, ni rien de la chasse. Il y avait simplement des matches que nous avons trouvés hier, Teresa et moi, en allant renifler, si je puis dire, les vitrines. Dictée, octobre 1976.
Alors les matches, ce sont des poissons frais. La meilleure période pour manger ces poissons, qu'on mange avec des morceaux d'oignons crus comme ça, c'est le mois de novembre, c'est la Toussaint. C'est un moment, c'est comme un peu comme le Beaujolais, eh bien le matches nouveau est arrivé à la Toussaint. Et je crois que Simenon, Georges, a pris goût à ces matches quand il est allé en 1929-30 avec son bateau l'Ostrogo, tout là-haut des Pays-Bas, à la pointe de la province de Groningen, exactement à Delfzijl, et on peut dire que ce goût de matches qui est un peu gris parfois comme le ciel là-bas, eh bien sacre un événement littéraire pour Simenon, puisque c'est là qu'il va créer le personnage de Maigret.
Michel Carli, Simenon faisait le marché avec sa mère quand il était enfant.
Oui, régulièrement, la mère Henriette prenait le petit Georges par la main et puis ils traversaient sur la passerelle, ils traversaient la Meuse. Et ils arrivaient sur le quai de la Batte ou le quai de la Goff où se déroulait le marché. Et là, le jeune Simenon, le petit Simenon, a été amené à développer un sens qui va générer pratiquement toute son œuvre, c'est-à-dire l'olfactif. Maigret a du flair, mais on pourrait dire que Simenon est un romancier né. Mais écrivez-moi né avec N-Z. C'est en effet sur ces marchés qu'il a appris à être gourmand du produit frais, et il dira dans ses confessions autobiographiques par après, à la fin de sa vie, que partout dans le monde, même aux États-Unis, il a fait les marchés. C'est lui d'ailleurs qui faisait les menus. C'est généralement, il s'arrangeait avec Boulle, qui était sa cuisinière, et aussi sa maîtresse d'ailleurs. Et ensemble, ils préparaient les menus. C'était un bonheur pour Simenon. Ça vous donne l'importance de la nourriture et de l'ordre de la nourriture chez ce romancier.
La pipe au bec, les mains dans les poches, sur la plateforme de l'autobus Madeleine Bastille, à regarder avec une curiosité jamais satisfaite les terrasses des cafés. Les images m'entraient par les yeux, les sons par les oreilles, les odeurs par les narines. J'absorbais tout. Tout seul, j'étais vide. La vie à deux ne me suffisait pas. C'était du monde entier que j'avais envie. Un homme comme un autre.
Alors, il débarque en décembre 1922 et il débarque dans cette capitale qui va lui imposer son propre rythme, parce que c'est la capitale des années folles, Charleston, jazz, art nègre, art déco. Et il va se rappeler de cette arrivée à Paris en disant « j'avais faim de tout ». Et là aussi, il utilise le mot « faim », parce que cette faim, elle est bien sûr une faim première, puisque il raconte deux choses, deux anecdotes qui ont un rapport avec la nourriture. C'est que il raconte qu'il avait tellement faim dans certains matins comme ça qu'il lui est arrivé dans un bistrot de manger de suite 12 croissants. Il avait aussi imaginé un système ingénieux, parce que c'est quelqu'un, Simenon, qui mange la vache enragée, qui est pauvre, qui est très pauvre en arrivant. Il n'a rien, il part de rien et il ne veut pas être un raté. Et il avait utilisé le principe du camembert. Alors le principe du camembert était le suivant, c'est qu'on ne pouvait pas cuisiner dans les petites chambres d'hôtel où il était. Donc, il avait constaté qu'un camembert, quand vous coupez un quart et que vous le mangez le lundi, et que pour peu qu'il y ait la chaleur intime de la chambre, le mardi, il a regonflé et il a un peu reconstitué sa périphérie, donc il est encore mangeable un peu plus. Et Simenon tenait, avec un camembert, une petite semaine.
Qu'est-ce que tu vas manger ? Une omelette aux fines herbes ? La patience de Maigret. Il y avait une omelette aux fines herbes bien baveuse, et Maigret n'y faisait même pas attention. L'ami d'enfance de Maigret.
Alors, il fréquentait, là, je crois, les restaurants de cochers et de chauffeurs.
Oui, alors, il allait, justement, ces restaurants de chauffeurs constituent le premier regard gastronomique, les premières gourmandises de Simenon à Paris. Et il n'est pas étonnant, justement, que les menus de ces restaurants de chauffeurs, qui constituent en une cuisine, simple, assez riche pour pouvoir être oborative, cette cuisine constitue quand même une grande part de la cuisine préférée de Jules Maigret par après. Hein. Qu'est-ce qui est passé de cette découverte des petits restaurants, d'abord de chauffeurs, puis des bougnats auvergnats, puis des petits restaurants, je veux dire, tenus par des gens de terroir. Qu'est-ce qui ressort de ça ? Il ressort une sorte de carte idéale des appétits et de Simenon et de Maigret, on peut en parler. Ça commence très simplement avec une soupe à l'oignon aux Halles. Maigret va, pour lui, les Halles, c'est la soupe à l'oignon. Hein. Mais on constate aussi que ce premier contact avec la nourriture des restaurants de cochers, de chauffeurs, amène à la cuisine mijotée. Hein. Donc, rien d'étonnant à ce que ça soit aussi la cuisine de Madame Maigret.
Michel Carli, il y a quelque chose que vous dites dans votre livre « Traversée de Paris ». Maigret traversé de Paris, un œil, un odorat, un capteur sensuel, en parlant de Simenon, une éponge à atmosphère.
Mais l'atmosphère est le mot qui revient toujours à l'esprit quand on parle de Simenon. Il s'imbibe de Paris, comme il s'imbibera d'ailleurs de tout, exactement, et il emploie le terme à propos de Maigret comme une éponge. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que Simenon va absorber Paris et les atmosphères de Paris, les quartiers de Paris, les bistrots, les restaurants, tout ce que vous pouvez imaginer, les lieux de crime y compris. Il va absorber ce Paris exactement comme son personnage le fera par après. Donc, c'est deux frères jumeaux à ce niveau-là, Maigret et Georges Simenon.
Georges Simenon, portrait du commissaire Maigret, archives INA 1968.
Chapitre 2, portrait de Maigret. Deux verres de bière par-ci, trois pastis par-là, deux ou trois gnôles, une prunelle, une fillette de blanc. Est-ce que sans le savoir, Maigret n'est pas un alcoolique ?
Écoutez, il est obligé d'entrer dans des bistrots tout le temps. Une enquête se fait en grande partie dans des bistrots aussi. Il doit bien surveiller quelqu'un, il fait des planques, n'oubliez pas, dans beaucoup de romans. Ben, automatiquement, il boit. Et puis je vous dirais qu'au moment où j'ai créé Maigret, c'est-à-dire il y a donc 40 ans, 42 ans, et moi-même, je buvais assez bien. Maintenant, je ne bois plus du tout. Mais à ce moment-là, mon Dieu, aussi, je m'arrêtais pour boire un verre de bière. Après le dîner, je buvais un verre de prunelle. Je buvais ma demi-bouteille de vin à chaque repas. Alors, je lui ai fait faire la même chose. Les Anglais, d'ailleurs, enfin, les ecclésiastiques anglais, ont demandé si je ne pourrais pas faire boire un peu de thé de temps en temps à Maigret pour qu'il n'ait pas toujours un verre d'alcool ou de bière ou de vin à la main.
Ils parcoururent près de 300 mètres avant de trouver un bar sombre dont le commissaire poussa la porte. Il fallait descendre deux marches de pierre et le sol était fait de petits carreaux rouges foncés, comme dans les immeubles de Marseille. Il n'y avait personne dans la pièce, rien qu'un gros charroux, couché près du poêle, qui se leva paresseusement, se dirigea vers une porte entr'ouverte et disparut. « Quelqu'un ?» appela Maigret. On entendait le tic-tac précipité d'un coucou. L'air sentait l'alcool et le vin blanc, l'alcool plus que le vin, avec un relent de café. Maigret et le corps sans tête.
Michel Carli, chaque bistrot de Paris que j'ai fréquenté restait vivant en moi, à vous Simenon, et vous appelez ça les trèves de comptoir.
Oui, les trèves de comptoir. Pourquoi ? Parce que le bistrot n'est pas seulement un endroit où Maigret ou certains autres personnages de Simenon poussent la porte pour se désaltérer. Bien sûr, il y a ça d'abord. Il faut dire que la boisson chez Maigret, dans une enquête, a un rôle bien particulier. C'est-à-dire que, un, le choix de la boisson est tributaire de la saison, mais, le bistrot n'est pas seulement un zinc ou un étain où l'on s'accoude. C'est aussi un lieu d'observation. Parce qu'il y a un côté médium chez Maigret. D'ailleurs, il attend l'intuition, nous sommes d'accord. Et notre commissaire va entrer dans ces bistrots pour s'imbiber d'une certaine atmosphère et se décoller de la réalité. Et à un moment donné, dans ce bistrot où il y a un brouhaha, où il y a des gens, où il y a le coude à coude populaire qui lui importe énormément, eh bien, le déclic se passe, c'est le cas par exemple dans Signé Picpus, et Simenon va dire qu'il y a un bout de pelote de laine qui dépasse, Maigret tire sur ce fil et toute la pelote se dévide et c'est l'enquête qui se réalise. Ça, c'est un premier lieu, c'est une sorte de lieu favori pour s'isoler. Il y a la brasserie la plus célèbre, c'est la brasserie Dauphine, qui est à deux pas du 36 Quai des Orfèvres. Eh bien là, la brasserie Dauphine, ça sera le lieu, la succursale du bureau du 36. Mais c'est le lieu où l'on rencontre les collègues. On est déconnecté de la routine. Et on va retrouver les collègues et à nouveau, si vous voulez, fraterniser autour de la nourriture ou de la boisson. Vous avez aussi les bistrots refuges, les refuges pour les solitaires, exemple Maigret, le client du samedi par exemple, ou bien alors vous avez le refuge de meurtriers, Maigret, la marchande de vin, quand l'homme dans la rue par exemple sont deux récits où le meurtrier est obligé de boire. Vous avez ce que j'appelle dans mon livre le cognac du meurtrier. Est obligé de boire quelques cognacs avant d'aller se livrer à Maigret en disant « c'est moi le coupable ». Donc la boisson joue un rôle, bien entendu. Et vous avez surtout deux exemples magnifiques. Vous avez le bistrot qui devient l'épicentre de l'enquête, où tout tourne autour du bistrot. Le plus bel exemple, c'est une nouvelle qui s'appelle « Le client le plus obstiné du monde », où tout se passe dans le bistrot, je veux dire en un temps, une sorte de tragédie grecque, en un temps réel.
C'est moi, annonça-t-il en pénétrant dans le corridor qu'envahit l'odeur du boudin grillé. Et tenant le homard derrière son dos, « Dites-moi, Félicie, savez-vous faire une mayonnaise au moins ?» Sourire hautain. « Eh bien, vous allez en faire une tout de suite et mettre ce monsieur-là à cuire. » Félicie est là. « Toi, je sais déjà que tu vas prendre une andouillette. Je peux m'offrir une petite folie en commandant un homard froid à la mayonnaise ?» Maigret et le fantôme.
La première enquête de Maigret était écrite par Simenon, qui est en train de suer dans le désert de l'Arizona à Tumacacori, près de la frontière mexicaine. Et c'est ça le prodigieux travail de distanciation de la mémoire de Simenon. Il est là, dans le sable, entre les coyotes et les saguaros, les cactus, et il va imaginer la gourmandise de son jeune Maigret dans un restaurant qui s'appelle au Vieux Calvados, au coin de la rue Henner, pratiquement en face du musée de la vie romantique maintenant. C'est toujours un restaurant, d'ailleurs, à l'endroit. Et là, on a, si vous voulez, le premier regard de Maigret sur la possibilité d'avoir une nourriture diversifiée. Chez Simenon, ça passe généralement par le fait que le patron a toujours, d'abord, est d'origine bien distincte, ou bien c'est un Auvergnat, ou bien c'est un Breton, ou bien c'est un Normand. C'est souvent le cas. Parfois du Midi, mais rarement. De ce fait-là, le patron a toujours bien un cousin qui est viticulteur, ou bien qui est éleveur, et tous les produits viennent directement de la province, et puis ils sont généralement affiché, je veux dire, parfois dans le restaurant, par exemple, dans un restaurant d'habitués, on a les jambons d'Auvergne qui pendent à la vitrine et qui donnent envie de rentrer. Hein. Alors, par exemple, ce vieux Calvados, moi qui me fait un coup au cœur chaque fois que je relis la première enquête de Maigret, Simenon dit que c'était comme une auberge de campagne qu'on aurait oubliée en plein Paris. C'est extraordinaire, cette chose. Alors, l'odeur, nous parlions d'olfactif chez Simenon, voilà une belle démonstration. Quand Maigret entre dans ce vieux Calvados, il y a l'odeur, mais qui est unique. Non, pas nécessairement parce qu'il y a des odeurs de cuisine, ça me paraît bien évident, mais l'odeur unique est formée par l'odeur, les effluves qui remontent de la trappe de la cave, trappe qui est ouverte, et on a un mélange d'odeurs, une sorte, dit Simenon, d'haleine acide, de cidre, de Calvados et de moisissures qui se mélangent aux odeurs de cuisine. Vous voyez, le romancier né par excellence. Hein.
Un instant, Maigret pense aux cèpes qui sont en train de mijoter en répandant une bonne odeur d'ail et de forêt mouillée. Il adore les cèpes. Félicie est là.
Maigret, quand il est commissaire divisionnaire, pèse un peu plus de 100 kilos. Donc, voilà, il est, c'est comme ça. Il est bâti comme un fort des Halles, dit Simenon. Et le rapport avec les Halles est déjà direct. Alors, Maigret, n'oublions pas que Simenon dit de lui qu'il réussit ses enquêtes en, je cite, « en reniflant dans les coins ». Donc, il y a déjà dans le vocabulaire de la quête policière des termes de nourriture. Entendons-nous bien. Maigret mange, digère, sert pas, comme il le fait d'un lieu ou d'une atmosphère. Ce sont les mêmes mots. Ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin. Nous savons tous que ses plats de prédilection sont les plats mijotés. Comme il laisse mijoter une enquête, c'est le terme propre de Simenon. Comme il laisse mijoter un suspect. Et ce qui est troublant à dire, c'est que le vocabulaire du policier est un vocabulaire, je vais dire, de cuistot. Puisque, bien sûr, on laisse mijoter un suspect, mais on l'embarque aussi dans un panier à salade, ce me semble. On dit d'un suspect qu'il crache le morceau.
Il mange le morceau.
Et il mange le morceau, et il se met à table. N'oublions pas non plus qu'un flic, ça s'appelle aussi un poulet. Donc, on a autour de, même au niveau de la lexicologie, on a un pont direct entre la table et une enquête policière. N'oublions pas non plus que le médecin légiste de la PJ, qui s'appelle le docteur Paul dans la réalité, apparaît 36 fois dans les romans de Simenon, et que nous savons tous que le docteur Paul était aussi habile du scalpel qu'il n'était du couteau et de la fourchette. C'était un grand gastronome qui fréquentait le restaurant La Pérouse. Donc, on a vraiment un élément de nourriture proche dans l'élément d'enquête. Mais le rôle de la nourriture, je crois, va plus loin dans les romans de Simenon, et c'est ça qui est intéressant. C'est que la nourriture crée une sorte de rapprochement entre hommes. C'est une connivence. C'est une connivence, par exemple, quand Maigret invite ses inspecteurs à manger une andouillette avec lui à la brasserie Dauphine, il y a une sorte de paternalisme, une sorte de copinage. Et vous avez un exemple très simple dans La patience de Maigret. Vous savez que les rapports entre Maigret et le juge, son juge d'instruction comme Elio, ne sont pas toujours très bons. Et dans La patience de Maigret, Maigret a la chance de voir arriver un autre juge, qui est le juge Ancelin. Et ce juge, il est grassouillé déjà, ça c'est merveilleux. Et d'instinct, il décide, en pleine enquête, d'aller manger dans un bougnat, un restaurant du Massif Central situé à Paris, qui indique rillettes du Morvan, rouelles de veau aux lentilles, fromage et tarte maison. Les deux se précipitent. Et vous avez cette chose extraordinaire, dit Simenon, le juge grassouillé s'épanouissait dans cette ambiance, humant avec gourmandise l'épais fumée de mangeaille. Il n'y avait plus que deux ou trois clients silencieux, des habitués que le propriétaire appelait par leur nom. « Qu'en pensez-vous, Maigret ? Vous permettez que je vous appelle ainsi, bien que nous en soyons à notre première rencontre. Une rencontre que je vous l'ai dit tout à l'heure, que je souhaitais depuis longtemps. Savez-vous que vous me fascinez ?» Maigret se contenta de grommeler « Vous aimez la rouelle ?» Il y a parfois la nourriture et la boisson saute au cœur du drame. Prenons l'exemple d'un célèbre Simenon, devenu un film célèbre également, c'est La vérité sur Bébé d'Ange. Cette femme qui crie par manque d'amour de son mari, eh bien, va l'exprimer au moment où, dans une scène vraiment à la Claude Monet, sous la charmille, un dimanche de bonheur qui pétille et qui est là un petit peu croustillant sous le soleil, dans une châtaigneraie de rêve, eh bien, cette femme, Bébé d'Ange, va servir le café à sa famille, et dans le café de son mari, destiné à son mari, elle va verser l'arsenic.
On ne partage pas le pain et le sel avec un suspect. Hein. Le whisky non plus, hein, n'est-ce pas, Maigret?
Je ne soupçonne personne. Hein.
Vous soupçonnez tout le monde, surtout moi, non? Oui, si, si. Mais vous avez raison, d'ailleurs. Imaginez, après tout, hein, quel beau procès ça peut faire, nom de Dieu.
Comment le goûtez-vous, Maigret, le gigot?
Et Maigret regardait la chair rose du gigot, le reste de salade parfumée. C'était vraiment appétissant. Il avait faim. Et il y avait ce gigot savoureux à quelques centimètres de ses narines. Deux morceaux coupés restaient sur le plat. Il en prit un avec les doigts et le mangea, tout en parlant comme s'il eût été lui aussi de la maison. Liberty Bar.
Micro-ondes. L'exposition Maigret traversée de Paris se tient à la Bibliothèque des littératures policières aux 50 rues du Cardinal Lemoine dans le 5e jusqu'au 4 octobre. Le livre « Maigret traversée de Paris » est publié chez Omnibus, de Michel Carli également sur les routes américaines avec Simenon, Omnibus. On peut signaler aussi « Simenon et Maigret passe à table » de Courtine chez Robert Laffont. De bouche à oreille par René Caïm-Bollinger. Aujourd'hui, l'appétit de Georges Simenon avec Michel Carli, texte lu par Frédéric Cantrel, coordination Christine Gage, prise de son Philippe Palares, mixage Christophe Lukaszewski, réalisation Pascal Raillet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 septembre 2003. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».